La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, là, je veux te suivre ce matin avec cette manchette qu'on voit qui a fait réagir un peu quand même, là, qui dit que le ménage canadien, la famille canadienne, là, moyenne est millionnaire.
Oui. Je veux pas que les gens se laissent décourager par cette nouvelle. C'est une manchette, ça frappe fort. Mais, tu sais, je te parlais hier de billets d'ancrage, mais c'est un peu ça. On a dans notre tête l'idée qu'être millionnaire, c'est gros, comme en 1986 quand les Lavigueurs ont gagné le gros lot. Mais millionnaire pour un ménage, un, c'est demi-millionnaire, hein, parce que souvent un ménage, souvent, je dis, soyons pas trop hétéronormatifs, mais souvent il y a deux personnes dans un ménage et plus les enfants. Et donc, c'est 500 000 par adulte d'actifs nets. Donc, de tout ce que tu possèdes, moins tes dettes au niveau des actifs financiers ou immobiliers, disons. Et là, faut faire attention. Un, la moyenne, ça inclut des milliardaires. Donc, si tu prends une population statistique, tu as des milliardaires là-dedans, ils créent de facto, par moyenne, plein de millionnaires parce qu'ils sont pesants dans la moyenne. L'autre point, c'est deux adultes qui ont une maison, qui la maison est endettée, mais qu'elle prend de la valeur, qui mettent chacun 10 % de leurs revenus de côté pendant 30 ans, qui ont un petit peu de CELI, qui cotisent à une assurance vie qui, elle, est rachetable, puis qu'il y a du capital, puis de l'héritage, puis éventuellement avoir 500 000 actifs moins passifs pour un adulte quand tu arrives proche de la retraite, c'est souvent une conséquence, puis elle est parfois transparente. Je te donne un exemple. Je rencontre quelqu'un qui prend sa retraite avec un régime à prestations déterminées, puis cette personne-là dit « Ah, les riches qui sont millionnaires, là, deux, là! » Mais je dis « Mais toi, t'es millionnaire. »« Ben non, je suis pas millionnaire, je gagne juste 50 000 par année avec ma retraite. » Je dis « Ouais, mais 50 000, toi, plus ton conjoint, ta conjointe, tu fais 100 000 pendant 20 ans de retraite. Tu penses combien d'argent que ça prend pour faire ça? Puis ta maison, là, que t'as payé 110 000 en 1990, là, ben est rendue à 390 000, même si t'es en région. Ah ouais, hein? Donc, sur papier, t'es millionnaire. Bon, évidemment, il faut ajouter aussi, Paul, ajouter l'effet fiscal. Parce que ta maison, quand tu la vends, oui, le gain n'est pas imposable, mais ton REER, quand tu le décaisses, lui, est imposable. Donc, certains ont 1 million d'actifs à deux, mais qui n'ont pas la même réalité de leurs voisins, qui ont aussi 1 million d'actifs parce que c'est pas la même réalité fiscale. Et on le voit dans le sondage, les plus vieux, ben pas le sondage, mais l'étude, les plus vieux ont plus d'actifs que les plus jeunes, c'est normal.
Ben oui.
L'effet du temps. Donc, tu sais, faut pas se laisser impressionner. Puis c'est sûr que quand on regarde les données canadiennes, on voit que Toronto puis la Colombie-Britannique, c'est sûr que ça pèse plus fort dans les données que le Québec. Au Québec, faut s'assumer, on est très social-démocrate, mais on est aussi pauvre. Ça coûte moins cher à vivre au Québec, mais on a moins d'actifs en dollars. Mais les jeunes qui regardent ça, ils sont découragés. Je voudrais juste leur dire que, regardez, là, être millionnaire ou demi-millionnaire à 65 ans par personne, ça va être une conséquence. Puis pensez surtout à l'inflation. Ça va dans 30 ans, si tu as 20 ans aujourd'hui, un demi-million dans 30 ans, ça va être presque rien par rapport à aujourd'hui. Donc, regardez ça avec recul, puis dites-vous que c'est une nouvelle statistique. Mais si vous regardez les finances de vos parents à la retraite, ils sont probablement millionnaires implicitement.
En tout cas, ils sont mieux que leurs parents à eux.
Oui, ça, puis leurs parents à eux ont laissé de l'argent à 13 enfants, tandis qu'eux vont laisser à 2 puis 3 enfants.
Ouais.
Donc, vous-même pensez que vous allez peut-être hériter de quelque chose.
Tu sais, ça me fait penser au compte de taxes municipales, ça commence à arriver, là.
Je l'ai eu hier, Paul, bon. j'ai eu un coup sur la tête.
Non, mais c'est parce que, tu sais, le discours officiel, c'est l'augmentation de 2 %. Hein?
Oui.
Puis là, tu regardes dans le détail. Évidemment, je connais peu de gens qui ont eu 2 % parce qu'il y a la taxe de l'arrondissement, puis là, selon l'endroit où tu vis, ben c'est 3 %, 3,5. Tu as l'effet, évidemment, de l'augmentation de la valeur de la maison. C'est assez solide, les taxes.
Ben en somme, Paul, c'est pas compliqué. Moi, je vis dans un duplex, puis mon locataire, si je prends son revenu, 6 mois de son revenu, là, la moitié de l'année, ça ne sert pas à payer l'hypothèque, ça ne sert pas à payer les assurances. Non, non. 6 mois de son loyer sert uniquement à couvrir les taxes foncières et municipales du duplex. Donc, c'est fou pareil, là. T'as même pas payé ton building, puis ton revenu de location, il va à la ville pendant 6 mois, puis là, tu recommences à payer après, tu sais. C'est complètement fou.
Un petit mot sur Starbucks.
Oui. Starbucks représente bien le marché. Et là, Starbucks a quand même des bons chiffres, mais ils nous disent, au niveau de l'administration, écoutez, on a eu une hausse de coûts. Puis je trouvais que c'était bien parce que ça représente bien ce que tous les commerces vivent au niveau du détail. Le coût du café a augmenté, donc il faut augmenter les prix du café. La main-d'œuvre nous coûte plus cher. Il a fallu former beaucoup de main-d'œuvre à cause du roulement de personnel. Il a fallu augmenter les salaires. Et là, on se retrouve à être obligé de transférer le prix au consommateur. Mais la question, c'est ton consommateur qui dit, moi, ma limite psychologique pour mon petit café latte, là, c'est 5$ pour boire inclus. Et que là, tu dépasses ça. Ben, tu risques de perdre ton consommateur parce que lui aussi, il a son billet de dire qu'un café, c'est 4,25$, exemple. Et donc, ça, là, refiler ces coûts-là au consommateur pour maintenir la marge, ça fonctionnera pas dans toutes les industries. Puis Starbucks, en plus, est exposé à une chose. Aux États-Unis, il y a des jeunes qui disent, nous autres, on se syndique, là. Et donc, il y a plusieurs dizaines de commerces aux États-Unis qui veulent se syndiquer. Et pendant la pandémie, en plus, ils ont eu des coûts de restructuration parce que Starbucks, tu l'as vu autour du bureau, il y avait 3 cafés alentour de la station avant Starbucks, très accessible, il en reste un. Et donc, le modèle se transforme. On y va plus pour du pour emporter. On y va moins dans les centres d'affaires parce qu'évidemment, les bureaux se sont vidés. C'est une des compagnies qui s'est le plus vite redressée au niveau de dire on ferme des commerces plus rapidement. Ils ont pris des décisions stratégiques extrêmement rapidement en annulant des baux commerciaux. Et donc, ça se reflète. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que l'enjeu et le défi pour maintenir le profit d'un trimestre de 816 millions quand même sur 8 milliards de chiffre d'affaires, c'est de augmenter les prix. Et ça, tous vos commerces de quartier vivent cette réalité-là. Ils devront augmenter les prix pour couvrir ce que leur main-d'œuvre leur coûte plus cher et surtout l'inflation liée à l'achat des matières premières.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut.
C'est 23.